Plusieurs pensent que la conscience suffit pour nous diriger sans la Bible. Non, certes non. Tant de gens semblent ne pas avoir de conscience et ne savent pas même ce que c'est. L'éducation a beaucoup à faire avec elle, mais la plupart du temps, elle n'avertit que lorsque le mal est commis. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'une chose est coupable avant de la faire. Souvent, un homme accomplit un crime, puis il est repris, tourmenté par sa conscience, mais il est trop tard alors que l'acte est consommé. Le guide infaillible. Les voyageurs racontent qu'en traversant les Alpes, si un endroit est trop périlleux, le guide les attache tous à lui et marche le premier. C'est ainsi que le chrétien est lié à son guide infaillible pour être en sûreté. Nul ne peut parcourir le labyrinthe de Mammouth dans le Kentucky sans tenir ferme son conducteur. S'il s'en séparait, il mourrait certainement. Dans ces grottes, il y a des gouffres et de profonds torrents. Personne ne peut les parcourir sans un guide ou une lampe. Nous n'avons aussi aucune chance de traverser seul le désert de ce monde en sûreté si nous n'avons la parole et le Saint-Esprit pour nous diriger, et si nous essayons de travailler sans cet Esprit qui nous a été envoyé tout exprès, nous risquons de tomber dans les ténèbres de l'éternelle obscurité. Il nous faut donc étudier l'Écriture qui est la lumière de l'Esprit. Il est dit expressément que cet Esprit nous enseignera toutes choses et nous remettra en mémoire toutes celles qui nous ont été dites. Jean 16. Il nous enseignera les choses à venir. Beaucoup de gens pensent que la Bible est un vieux livre hors de date, bon seulement pour les temps de ténèbres, et non pour notre siècle trop éclairé qui peut se passer délai des quelques bonnes histoires qu'elle raconte. Ce livre est vieux, il faut le retrancher. Il pourrait dire tout aussi bien que le soleil brille depuis trop longtemps, qu'il est de date trop ancienne et qu'il n'est plus nécessaire de faire des croisées aux maisons neuves parce que nous possédons une nouvelle et meilleure manière de nous éclairer avec le gaz ou l'électricité. Je conseille fort à ceux qui pensent ainsi d'en essayer. La presse nous donne les événements du jour, mais la Bible nous parle de ce qui doit être. Ce sont des choses vraiment nouvelles, plus nouvelles que les faits passés racontés dans les journaux. Elle nous dit que l'Esprit nous enseigne toutes choses et comment il faut prier, etc. Je suis sûre qu'aucune prière inspirée par cet Esprit et prononcée sur cette terre maudite ne restera sans réponse. Beaucoup de supplications ne sont pas dictées par l'Esprit. Dans ma jeunesse, je désirais vivement devenir riche et je priais pour avoir 100 000 $. Puis je me disais « Dieu ne m'exauce pas, il ne me rend pas riche ». Mais je n'avais aucune garantie pour une telle prière. Plusieurs font de même, ils ne demandent pas selon les Écritures, ni selon l'enseignement de l'Esprit. C'est lui qui nous dit comment il faut répondre à nos ennemis. Si quelqu'un me frappe, je ne dois pas tirer mon revolver et le tuer, et, car l'Esprit de Dieu m'enseigne à ne pas me venger moi-même, à ne pas tirer mon épée pour défendre mon droit. On pourra m'appeler un lâche, mais Christ me dit de présenter l'autre joue à celui qui m'a frappé, et j'obéis à son enseignement et non à ceux des hommes. Je ne pense pas qu'on gagne à s'armer pour se défendre, assez de vies ont été sacrifiées pour nous apprendre cette leçon-là. La parole de Dieu nous protège mieux qu'un revolver si nous accomplissons ses préceptes. Un secours pour notre mémoire. Quelle douce pensée de savoir que l'Esprit nous remettra en mémoire toutes choses. Jean 14, 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Je crois qu'un grand nombre de chrétiens ont fait l'expérience de cette précieuse promesse. Pendant qu'ils parlaient de Christ, ils se sont rappelés bien des choses que Jésus a dites et en ont été comme remplis. Quand cet esprit repose sur nous, nous pouvons nous exprimer avec autorité et avec puissance et le Seigneur honore notre travail en le bénissant. Dieu emploie peu d'ouvriers de cette manière parce que chez la plupart ne se trouve pas la puissance dont Dieu a besoin pour agir lui-même. Il ne se sert pas de nos propres idées, mais quand nous avons sa parole dans nos cœurs, alors le Saint-Esprit allume une flamme qui rend notre témoignage abondant, plein de fraîcheur et de suavité, la parole s'honore elle-même en le rendant fructueux. Le Seigneur veut nous employer, il veut nous rendre des canaux de sa grâce, mais plusieurs ne sont pas en état de le devenir, et c'est un mal fâcheux. Ils n'ont aucun témoignage à donner pour leur maître. S'ils parlent, c'est pour ne rien dire. S'ils prient, leur prière n'a aucune puissance. Ils ne plaident pas dans la prière, ils ne prononcent que des phrases banales. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être remplis de la parole que le Saint-Esprit nous remet en mémoire. 1 Corinthiens 2, 9 mai, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Il en est qui s'arrêtent à ce texte, et qui prétendent que l'œil, n'ayant pas vu le ciel, tout ce qu'on en peut dire n'est que pure spéculation. Mais le passage qui suit complète le précédent, Dieu nous a révélé ces choses par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même ce qu'il y a de plus profond en Dieu. C'est là précisément ce que fait le Saint-Esprit. Longue ou courte vue, l'Esprit nous révèle le bien que Dieu nous a préparé. J'ai entendu Élie, à quelque temps, un discours sur Abraham. Le prédicateur disait « Abraham ne fut pas tenté par les plaines fertiles de Sodome, parce qu'il avait une longue vue et discernait la cité qui a des fondements et dont Dieu est l'architecte et le fondateur. » Plusieurs dans l'Église de Jésus-Christ sont des gens à courte vue, comme l'eau, et ne voient que les biens qui sont autour d'eux. Abraham contemplait la cité céleste. Moïse laissa les palais de l'Égypte pour s'identifier avec le peuple de Christ, pauvre peuple esclave alors, mais le prophète avait la vue longue et voyait des bénédictions en réserve. Il en est qui ont à la fois une longue et une courte vue. J'ai un ami qui d'un œil voit de loin et de l'autre de près. L'Église est remplie de ces gens-là qui ont un œil pour le monde et un autre pour le royaume de Dieu. Pour eux, tout est confus et ils voient marcher les hommes comme des arbres. Saint Étienne avait la vue longue, il voyait clair dans les cieux, et quand il mourait, ses ennemis ne purent le convaincre que Jésus n'était pas à la droite du Père. Il le voyait là assis.
Regardez, regardez, disait-il. Il est là.
Le monde était sous ses pieds et ne pouvait le séduire. Paul avait la vue longue aussi, car, ravi dans le troisième ciel, il avait entendu des paroles ineffables, des paroles étonnantes et glorieuses. Je puis vous dire que lorsque l'Esprit de Dieu repose sur nous, le monde nous semble bien vide, il a peu d'empire, et nous commençons à le lâcher. Nous laissons les choses visibles pour saisir celles qui sont éternelles. C'est ce que doit faire l'Église en nos jours. Elle a besoin de la puissante énergie de l'Esprit pour consumer l'écume qui est dans les cœurs. Oh, qu'il descende comme un feu et qu'il brûle tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et à sa parole. L'Esprit est appelé le Consolateur. Pour la première fois Jean 1, 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Jusque-là, c'est Christ qui porte ce nom. 700 ans auparavant, Ésaïe le prophète avait dit de lui qu'il viendrait guérir les cœurs brisés. Le monde n'a pas voulu du premier consolateur, il l'a pris et l'a cloué sur la croix du calvaire. Mais en quittant cette terre, Jésus dit à ses disciples, « Je vous enverrai un autre consolateur, vous ne serez point orphelin, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Ces textes donnent du courage aux enfants de Dieu et les font monter au-dessus des brouillards du monde. Quel consolateur que le Saint-Esprit! L'ami fidèle, il nous reprend aussi afin de nous élever plus haut dans la sanctification. Il convaincra le monde de péché, est-il écrit. Mais une certaine classe de gens n'aime pas cette œuvre de l'Esprit. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il les convainc de péché, ce dont ils ne se soucient pas. Ce qu'ils désirent, c'est qu'on les console et qu'on leur dise des choses agréables pour les laisser vivre tranquilles. Ils veulent qu'on leur prêche la paix quand la guerre est aux portes, que tout va aller au mieux, que le monde ira s'améliorant, que la lumière luit quand les ténèbres s'épaississent. Les hommes se croient plus excellents que leur père, et cela leur plaît, car la nature humaine est remplie d'orgueil. Mon père était un vieux puritain trop strict, disent-ils, les gens étaient alors trop rigides. Nous sommes devenus plus larges qu'eux, ils ne voyageaient pas le dimanche, mais nous croyons pouvoir le faire et fouler aux pieds les lois de Dieu. Voilà le langage que plusieurs aiment et des prédicateurs s'y conforment. Quand vous leur parlez fidèlement, selon l'Écriture, et que l'Esprit leur applique des paroles sévères, ils disent « Je n'ai pas de goût pour ce genre-là. Je ne reviendrai plus. » Quelquefois, ils s'en vont avant la fin du sermon parce qu'ils n'aiment pas ce que vous dites. Mais quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il convainc les hommes de péché, de justice et de jugement, non parce qu'ils sont menteurs, voleurs, ivrognes ou meurtriers, mais parce qu'ils n'ont pas cru en moi, dit Jésus. Voilà le vrai péché, le plus grand péché du monde. Beaucoup de personnes considèrent l'incrédulité comme une sorte d'infortune, mais elles ne comprennent pas, si je puis m'exprimer ainsi, que c'est le péché qui donne le monde de nos jours et qu'il est le père de tous les autres. Si l'incrédulité n'existait pas, vous ne verriez pas les ivrognes et les femmes de mauvaise vie parcourir nos rues, il n'y aurait pas de meurtriers. L'incrédulité contient tous les péchés en germe. Ne croyez pas un seul instant qu'elle n'est qu'un malheur, mais sachez qu'elle est un affreux péché, parce qu'elle fait Dieu menteur. Un homme frappera celui qui l'aura accusé d'être un menteur, et nous accusons Dieu de mensonge. Il en est qui semblent se jouer de leur incrédulité et qui pensent être très convenables, en doutant de la parole de Dieu et en répétant « j'ai des difficultés intellectuelles, je ne puis croire ». Oh ! Que le Saint-Esprit vienne les convaincre de péché. Nous avons besoin de la puissance qui convainc, je suis très reconnaissant de ce que Dieu n'a pas mis cette puissance-là en nos mains. Si je l'avais, je serais découragé de prêcher et je retournerais à mon commerce. Mon œuvre, c'est de tenir ferme la croix et de rendre témoignage à Christ, mais c'est celle de l'Esprit de convaincre les hommes de péché et de les conduire à Jésus. J'ai remarqué une chose, c'est que les conversions qui n'aboutissent pas n'ont pas été amenées par la conviction de péché, c'est le seul pierreux qui ne peut produire de fruits. La moindre persécution, la plus légère opposition, fait retourner dans le monde ces convertis-là. Prions, chers amis chrétiens, que le Saint-Esprit vienne convaincre tellement les hommes qu'ils renoncent à leur incrédulité. Je préfère voir 100 personnes vraiment converties plutôt que 1000 qui font profession de piété et que le Saint-Esprit n'a pas convaincu de péché. Ne disons pas paix, paix. Là où il n'y a point de paix. N'allons pas persuader ceux qui vivent dans la révolte qu'il leur suffit de se lever et de se dire convertis s'ils ne haïssent pas le mal. Demandons à Dieu qu'il montre à chacun la plaie de son cœur, alors notre œuvre sera réelle, profonde, et elle supportera le terrible jugement qui doit mettre à l'épreuve notre travail. Nous venons de voir que l'œuvre de l'Esprit est de donner la vie, de produire l'espérance et la liberté, de nous faire rendre témoignage, de nous guider, de nous enseigner, de nous consoler et de convaincre le innombre de péché. Chapitre 3. La puissance à l'œuvre. Lire l'amour et non pas la charité. Note enseigne-moi. Elle agit par le Saint-Esprit qui est tout-puissant. Quand elle est à l'œuvre, c'est par l'action même de l'Esprit, et cette action produit des fruits bénis. Saint Paul écrit aux Galates. Galates 5, 16-18 « Je dis donc marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Galates 5, 22-25. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Il existe donc une vie de paix parfaite, de parfaite joie et de parfait amour. Cette vie est le but que tout enfant de Dieu doit atteindre et en dehors duquel il ne saurait trouver un seul moment de repos. C'est le niveau où le Seigneur veut nous élever. Trois de ces 9 grâces, l'amour, la paix et la joie, forment nos rapports avec Dieu. Il attend ses fruits de nous. Fruits seuls acceptables à ses yeux et sans lesquels nous ne pouvons lui plaire. Les trois grâces qui suivent, la patience, la douceur, la bouté, concernent nos rapports avec les hommes, elles composent les sentiments intérieurs qui dirigent ces rapports journaliers. Les trois dernières grâces, la fidélité, la bénignité, la tempérance, sont en rapport à nous-mêmes. Cette manière de les diviser peut nous être utile. En posant le pied sur le seuil du royaume de Dieu, nous rencontrons donc tout d'abord les trois premières grâces. L'amour, la paix et la joie. Dès qu'une personne abandonne le péché, pour se tourner vers le Seigneur de tout son cœur, elle rencontre ces trois grâces à l'entrée même de sa vie spirituelle. Examinons-nous pour savoir si nous les possédons. Nous ne saurions les produire et plusieurs se donnent beaucoup de tourments parce qu'ils essaient de les créer, mais elles ne peuvent germer sur le sol de notre cœur naturel et descendre d'en haut. C'est Dieu qui dit une parole et il produit l'amour et la paix et la joie. Nous possédons toutes choses en recevant Jésus-Christ dans nos cœurs par la foi, alors le Saint-Esprit entre aussi et apporte ses fruits bénis. Si l'Église tout entière vivait de la vie divine, telle que le Seigneur la demande, elle deviendrait la plus grande puissance que le monde ait connue. C'est justement l'abaissement du niveau spirituel chez les chrétiens qui fait tout le mal. Un si grand nombre n'ont qu'une vie éteinte. Ils ressemblent à des arbres plantés dans un sol ingrat, un terrain dur et pierreux, où les racines ne peuvent atteindre les riches engrais qui leur sont nécessaires. Ces chrétiens-là n'ont pas attendu les grâces précieuses dont nous parlons. Vous donc de même, y apportant tous vos soins, ajoutez la vertu à votre foi, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et qu'elles y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si donc ces choses sont en nous, nous porterons continuellement de bons fruits, non un petit fruit de temps à autre, quand nous serons dans d'heureuses dispositions et que nous ferons quelque œuvre dans un moment d'excitation pour devenir aussitôt après découragés, mais nous ne serons point stériles et donnerons des fruits constamment, nous croîtrons dans la grâce étant remplis de l'Esprit. Ce qui peut les gagner. Un grand nombre de parents m'ont demandé comment ils pourront gagner à Christ leurs enfants. Ils leur ont parlé, les ont grondés, leur ont donné de bonnes lectures, et rien n'a réussi. Je pense que le moyen le plus sûr de gagner nos familles, nos voisins, et ceux dont nous aimons les âmes, c'est de faire honorer la doctrine du Seigneur par la sainteté de notre vie en croissant dans les dons de l'Esprit. Si nous possédons la paix, la joie, l'amour, la douceur et la tempérance dans le manger, dans le boire et dans notre langage, si nous vivons chez nous, jour après jour, d'une vie chrétienne telle que Jésus la demande, nous exercerons une puissante et paisible influence qui contraindra ceux qui nous entourent à croire en Christ. Mais une vie inégale, ardente aujourd'hui et froide demain, ne peut que repousser les gens du monde. Le monde contemple l'Église et rien n'est pire pour ceux que nous voulons gagner à Christ que de nous voir par moments reculer en arrière et nous refroidir. Ce n'est point là l'état normal du chrétien et ce n'est pas non plus l'intention de Dieu que cet état existe puisqu'il désire que nous croissions dans toutes les grâces à la fois. La vie chrétienne réelle et joyeuse, c'est de croître continuellement dans l'amour et dans la faveur du Seigneur. Même les plus vils des hommes reconnaissent la puissance des fruits de l'Esprit. Ils peuvent les condamner à être poussés, parfois à blasphémer, mais au fond de leur cœur, ils comprennent que ceux qui vivent de la vie divine leur sont supérieurs. Les choses du monde ne peuvent les satisfaire, et si nous pouvons leur montrer que Jésus nous suffit dans la vie présente, ce sera là une prédication plus éloquente que tous les discours de ceux qui n'ont de la piété que la profession extérieure. Un homme peut parler comme un ange, mais s'il ne pratique pas ce qu'il dit soit chez lui, soit au milieu des affaires, son témoignage n'aura nul effet et les gens diront qu'il n'est, après tout, qu'un hypocrite. Les paroles sont vides sans les actes qui doivent les suivre, il faut être conséquent avec les vérités qu'on professe. Prions afin que Dieu nous élève au-dessus de cet état de froideur et de formalisme dans lequel nous avons vécu, pour nous placer constamment dans une atmosphère céleste où nous verrons sa face. Alors nous traverserons le monde en y faisant briller notre lumière et en réfléchissant la grâce et la gloire. La première des neuf grâces énumérées dans les Galates et la dernière citée par Pierre, c'est la charité ou l'amour. Sans elle, nous ne pouvons ni servir Dieu, ni travailler pour lui. C'est la clé qui ouvre le cœur humain. Si je puis prouver à un homme que je ne viens vers lui que par amour, il sera bientôt attiré. Si une mère persuade à son fils qu'elle ne l'avertit que par amour, il sera conduit à mener une vie différente. Si cet amour n'est point égoïste et ne veut que la gloire de Dieu, l'influence de cette mère sera bientôt toute puissante sur l'enfant pour le faire réfléchir, car la charité touche un cœur plus vite que toute autre chose. La puissance de Dieu. L'amour est une marque que Christ donne à ses disciples, tandis que souvent ceux-ci en fabriquent eux-mêmes de leur invention. Les uns s'habillent d'une certaine manière, afin qu'on les reconnaisse pour être des chrétiens, d'autres portent un crucifix ou quelque chose de semblable, mais l'amour est le sceau qui sert à manifester les enfants de Dieu. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi si un homme se tient devant un auditoire et parle avec l'éloquence d'un Démosthène ou du plus grand orateur qui soit au monde, sans que l'amour anime ses paroles, il n'est que les reins qui résonnent ou la cymbale qui retentit. Je voudrais recommander à tous les chrétiens d'étudier le 13e chapitre de la 1ère épître aux Corinthiens nuit et jour, non pas une nuit et un jour, mais continuellement, l'été et l'hiver, durant les 12 mois de l'année.